enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Enseigne-moi à devenir un adorateur pendant ces 2 mois. Jésus, je veux apprendre de toi, je ne veux pas rester là où je suis. Seigneur, dans toute cette période d'école de louange, fais quelque chose dans ma vie pour que je t'adore avec plus de liberté, plus de gloire, que j'apporte plus de bonheur et de sourire dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Ce matin, comme le programme que vous pouvez vous procurer à la sortie le disait, ce sur quoi je vais prêcher s'intitule « Le cœur de clé ». Parce qu'au cœur de notre Église, clé, Centre Languedoc Évangile, se trouve l'adoration. Notre Église est comme un corps. La Bible nous dit que l'Église est comme un corps. Et dans ce corps, il y a un cœur. Et le cœur de notre Église, c'est l'adoration. Alors nous avons un texte que nous reprenons quand nous parlons de l'adoration à clé. Ce texte se trouve dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5, les versets 2 à 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, versets 2 à 5. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Seigneur, tous ceux qui dorment, je te prie que leur cœur veille ce matin et que tu leur donnes le message en songe. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles, des gouttelettes de la nuit. J'ai quitté ma tunique. Comment la remettrai-je? Je me suis lavé les pieds. Comment est-ce que je vais les salir? Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et des mains a ruisselé la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. » Et je lirai un petit extrait de Cantique des Cantiques plus tard dans le message. Donc, ce passage-là nous parle de la rencontre du Seigneur par sa bien-aimée. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. Excusez-moi si je suis un peu rapide, il y en a qui viennent à peine de trouver le passage. Donc, je vous promets que j'ai lu ce passage, ce n'était pas un écrit de D'Artagnan ou une bande dessinée. C'était la Bible, ce que je viens de lire. La première chose que l'on voit dedans, c'est cette notion de la rencontre de Dieu est tout d'abord l'état de nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu est esprit. Je voudrais dire Dieu est cœur, si je pouvais parler ainsi. Mais quand je dis cœur, certains pensent émotion. Dieu n'est pas émotion. Il est cœur, ça veut dire il est celui qui est. Il est esprit. L'esprit est le centre de notre être. L'essence de ce que nous sommes se trouve dans notre esprit. L'esprit, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la pensée, comme on nous éduque en France. L'esprit est quelque chose qui fait partie de nos entrailles. C'est viscéral, c'est ce que tu es au plus profond de toi. Quand tu as peur, il y a quelque chose au fond de ton cœur qui réagit. Ton esprit, tu sens que ça réagit dans tes entrailles. Ton esprit est là, ça se passe dans tes entrailles. Et quand tu adores, ton esprit s'ouvre et se donne totalement. Quand tu ne sais pas ce qu'est l'adoration, regarde un match de l'Olympique de Marseille. Regarde comment sont les supporters de l'Olympique de Marseille. Et tu vas voir des gens qui souvent adorent. Ils n'adorent pas le vrai Dieu, mais ils adorent vraiment. Et c'est pourquoi l'adoration que nous sommes appelés à donner au Seigneur est une adoration qui fait appel à notre cœur. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive. Est-ce qu'on a parfois des somnambules occultes? Je ne veux pas de réponse, s'il vous plaît. Préservez mon moral. Ça se peut que nous ayons parfois des somnambules occultes. Ça veut dire, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ça m'arrive de temps en temps, même un peu trop souvent à son goût, d'aller au lit un peu plus tard qu'Isabelle. Vous savez, je suis sur MSN le soir, c'est pour ça que je vois Nicolas vient de se connecter, Fabrice vient de se connecter, Grégory vient de se connecter. Je vois les connexions là. Donc je sais que vous y êtes aussi tard que moi. Et alors, je ne sais pas si ça se passe comme ça pour vous, mais je vous dis pour moi comment ça se passe. Oui, Rodrigue, tu peux rire. Des fois, je vois Rodrigue vient de se connecter. Et puis, alors à ce moment-là, je vais au lit. Et souvent, Isabelle, qui aimerait que je vienne plus tôt, et elle a raison, j'arrive et parfois, c'est rare, mais ça arrive, qu'elle dort profondément au point de ronfler. Mais si elle est vraiment très fatiguée, je vous assure, c'est très rare. Je le dis avec sa permission, mais c'est très rare. Mais c'est vrai, ça arrive. Et quand elle ronfle comme ça, je dis, mais Isabelle, écoute, il faudrait que tu arrêtes de ronfler. Comme... Et vous savez ce qu'elle me répond? Mais non, je dormais pas. Bien sûr, elle aussi, j'étais endormi, mais mon cœur veillait, je réponds. Oui, oui, je connais, c'est biblique, tu vois. Non, mais je dormais pas. Je dis, ma chérie, je t'assure, un tracteur se serait senti timide à côté, tu vois. Peut-être ça vous arrive, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Hein? La Bible nous dit de veiller et de prier, de veiller et de prier. C'est pourquoi on a ces 3 jours de jeûne de temps en temps. Cette église d'Avignon m'ont dit, ils font maintenant 3 jours de jeûne tous les 4 mois, chaque quadrimestre ou tous les 3 mois, chaque trimestre. 3-4 fois par an, 3 jours de jeûne. Et ça change, parce que Jésus nous a dit de veiller en esprit. Ça change quelque chose de vouloir rencontrer Dieu. Sans quoi? Je suis endormi. Ben oui, mais mon cœur veille. Nous ne vivons pas un plein réveil comme on l'entend au Burundi et dans plein d'autres nations. C'est vrai, ce n'est pas le réveil, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le réveil, ce n'est pas parce que nous sommes endormis, nous ne sommes pas dans le réveil, que notre cœur ne doit pas veiller. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et le Seigneur nous demande pas d'attendre passivement le réveil, il nous demande de réveiller nos cœurs. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est le vivant qui te loue. Le mort n'apporte aucune louange à Dieu. Quelle est la manifestation d'un cœur qui veille, d'un cœur qui est vivant? Il a envie de louer Dieu. Il est libéré pour louer Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Heureux les pauvres en esprit, nous dit Jésus, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif d'être touchés par Dieu, parce qu'il les visitera. Hervé nous l'a rappelé. Alors, c'est mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Ouvre-moi! Vous savez, l'initiative de la rencontre vient de lui. Ce n'est pas dur de chercher Dieu quand on commence à croire que Dieu nous cherche. C'est vrai. Quand on commence à découvrir que le Dieu que nous avons nous cherche. De temps en temps, il aime bien faire hide and seek, cache-cache. Hein? Mais il aime se cacher juste pour voir si tu l'aimes assez pour le trouver. Et si jamais tu abandonnes avant, il dit « Oh, mon petit, il m'a lâché avant de me trouver. Ah, ma petite. » Vous savez, quand mes enfants étaient petits, on faisait ça, on se cachait. Et puis ensuite, on aimait que les enfants nous trouvent. Et si ça devient trop dur, si on s'est mis derrière un rideau, on commence à faire bouger le rideau pour qu'ils voient un petit geste, qu'ils soient encouragés à ne pas arrêter jusqu'à ce qu'ils nous trouvent. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est un sujet de peine quand l'enfant n'arrive pas à trouver puis qu'il dit « J'arrête » et il s'en va. Ah, mon cœur de papa, à chaque fois, il était « Mais non, mais je n'ai pas bougé assez. » Alors là, tu dis « Eh oh, je suis là, mais c'est le papa, il a envie que le petit le trouve. » Mais Dieu fait ça avec nous. Et qu'est-ce qu'il est déçu quand tu dis « Bon, j'arrête. » Non, Dieu est déçu parce que la Bible nous dit dans Exode 34, 14, c'est un Dieu qui veut entretenir une relation de passion avec toi. La version seconde nous dit « C'est un Dieu jaloux. Oh. » Mais cette version-là ne fait pas ressortir tout ce qu'il y a dans cette passion. Quand il dit « c'est un Dieu jaloux », la réalité, c'est un Dieu dont l'amour est tellement zélé qu'il te veut très fort. Eric Warren, dans son livre que nous allons étudier, au chapitre 11, justement, la semaine prochaine, nous dit que cette version littérale hébreu, c'est un Dieu qui veut entretenir une relation de passion avec toi. Est-ce que ça, c'est pas glorieux de savoir que Dieu veut entretenir une relation avec toi, avec moi? C'est mon bien-aimé qui frappe. C'est pas elle qui est là en train de dire « Oh Seigneur, Seigneur !» Non, moi j'étais endormi, mon cœur veillait. Mais mon bien-aimé frappe. Et le Seigneur continue. Dieu chérit la relation avec chacun de nous. Dieu veut devenir votre meilleur ami. Dieu veut devenir celui pour qui votre cœur peut vibrer. Parce que son cœur vibre pour vous. Son cœur vous aime. S'il vous a créé, c'est parce qu'il désirait avoir une relation particulière avec vous. Et la relation qu'il a avec un autre ne remplacera jamais la relation qu'il peut avoir avec vous. Vous êtes particulier pour lui. Ce qui sort de votre cœur, aucun autre cœur ne peut le produire. C'est pourquoi le Seigneur désire ta louange, ton amour, ton Dieu chérit la relation de passion qu'il veut entretenir avec toi. Pas avec nous globalement, mais avec chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il vient frapper à la porte. Est-ce que ce n'est pas étonnant d'imaginer le Dieu éternel, grand, saint, glorieux, veut avoir une amitié avec nous? Et bien souvent, on est réfractaire à cette notion d'amitié. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un Dieu comme ça, si grand, si sévère, etc.? Mais je vous assure, changeons notre image de Dieu. Ne voyons pas Dieu comme quelqu'un de distant, pas intéressé par la relation, parce que ce n'est pas l'image que la Bible nous donne. La Bible nous dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis au-dedans de vous et il chérit la communion avec vous. Dieu aime que nous le cherchions. Dieu aime nous rencontrer. Il vient lui-même au-devant de nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te montre ma bonté. Dieu aime quand tu l'invoques. Dieu aime quand tu dis, Jésus, je t'aime. Père, merci pour ton salut. Saint-Esprit, ouvre mes yeux que je vois Jésus. Dieu t'aime et parce qu'il t'aime, il n'a pas fait que donner sa vie sur la croix. Il l'a fait, c'est l'acte le plus puissant et magnifique. Mais il continue de t'aimer. S'il nous a aimés quand nous étions ennemis, à combien plus forte raison, la Bible nous dit, va-t-il nous aimer maintenant que nous sommes réconciliés? À combien plus forte raison, il vient encore frapper à la porte de nos cœurs pour dire, tu sais, j'en veux de toi, j'en veux de ton cœur. Nourris-moi par ton adoration. Nourris-moi par ton... La nourriture de Dieu, c'est l'adoration que tu lui offres. Dieu se nourrit de ton amour. Dieu se réjouit. Dieu est fêté par ton adoration. Alors, il nous aime et il désire notre communion. C'est pourquoi encore, je voulais te dire cette parole qu'on disait à un aveugle qui aurait pu imaginer, parce qu'il était aveugle, il était paria, rejeté de la société, lui, il allait être laissé dans son coin. Mais Jésus lui a dit, appelez-le. Et alors, les amis se disaient les uns aux autres, hey, prends courage, il t'appelle. Moi, je voulais te dire, en ce début des 2 mois, prends courage, reprends ton courage. Dis pas, la communion avec Dieu, ce n'est pas pour moi. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Dis à ton voisin, prends courage, il t'appelle. Il t'appelle à la communion de son fils pendant ces 2 mois et au-delà. Prends courage, il t'appelle. Alléluia. Prends courage, il t'appelle. Alors, quand on a ce courage-là pour appeler Dieu, comme lui nous appelle, on va rentrer dans cette communion de grâce, de miséricorde. Tu sais, le Seigneur te connaît. Tu vas dire, comment il peut appeler quelqu'un comme moi? Philippe, tu dis ça parce que toi, tu es parfait. Oui, je sais. Hein? Non. Je suis loin d'être parfait. J'ai autant de défauts que toi et peut-être plus, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et tu sais, j'ai connu sa grâce et j'y ai cru. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je l'aime tant? La Bible nous dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. Plus tu es conscient de combien Dieu t'a pardonné, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu l'aimes. Quand on dit, je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Quand on commence comme ça, on commence à célébrer le grand pardon de Dieu. Il vient, il frappe à la porte, pas pour te sauver et dire maintenant, sois là, sage, je t'ai gracié, je t'ai lavé, maintenant si tu bouges, tac, je t'allume. Non, il continue de t'aimer, il continue de dire, c'est le début d'une relation entre toi et moi, c'est le début d'une aventure d'amour, c'est le début d'une marche, d'une poésie entre nous. C'est une marche qui finira jamais. Dieu a marché avec Enoch, Enoch marchait avec Dieu. Et un jour, il est allé tellement loin avec lui qu'Enoch n'est plus jamais rentré à la maison. Il est parti directement au ciel. Et vous savez, Dieu veut marcher avec nous jusqu'au jour où on va aller à la maison. Dieu désire. Mon bien-aimé vient. L'initiative vient de lui. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte. C'est pour ça qu'il dit, ce n'est même pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses. Comme tu es né, que tu te convertisses, à un moment donné, quand tu as dit oui au Seigneur, c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est vrai qu'il fait des choix étonnants, mais c'est ça la grâce. C'est lui qui avait choisi ses 12. Et ses 12, c'était ni des tsars, ni des stars. C'était vraiment des gens ordinaires. Et Dieu fait des choses extraordinaires dans sa grâce avec les gens ordinaires que nous sommes, à cause de son amour, à cause de sa grâce. C'est pourquoi lors de nos cultes, nous pouvons célébrer le pardon de Dieu. Tous ceux qui sont là en train de danser, de chanter, peut-être le font à cause de la musique et du rythme, mais beaucoup le font aussi parce qu'ils ont conscience, Dieu m'a pardonné, je suis enfant de Dieu, je suis aimé par un Père rempli d'amour qui chérit quand je l'aime, qui chérit quand je réponds à son amour. Ça, c'est le cœur de clé. Le cœur de notre Église dépend totalement de ta réponse à l'amour de Dieu. Et comme Hervé nous le faisait remarquer ce matin, quand nous nous laissons embraser par son amour, que nous répondons, nous sommes en train de grandir dans le cœur de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Qu'est-ce que répond la Tsunamite ici. Qu'est-ce que répond cette femme? Elle dit, j'ai quitté ma tunique. Comment la remettrai-je? Je me suis lavé les pieds. Comment est-ce que je vais les salir? Les faux semblants, les fausses excuses, les prétextes pour ne pas bouger. Quand le Seigneur vient chercher, il frappe à la porte et, voyez comme elle nous ressemble, il y a des faux prétextes, des faux semblants. Non mais, là, Seigneur, là je ne peux pas, tu vois, je suis juste allé me coucher. J'ai quitté ma tunique, comment la remettrai-je? Avec tes mains. J'ai lavé mes pieds, comment je vais les salir? Mais tu te fiches de qui? Tu vois? Parce que si tu ne te lèves pas maintenant, tu ne vas pas rester au lit pour ta vie entière. À un moment donné, tu vas te lever. Vous voyez, la futilité de ces excuses, de ces prétextes, et bien souvent, qu'est-ce qui t'empêche de venir louer le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de venir louer le Seigneur? J'entends les fausses excuses. Vous savez qu'ils sortent. Ah, j'ai pas pu venir au culte, j'ai pas pu aller au groupe de maison, j'ai pas pu être là pendant le jeûne. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Ben, comme la fiancée ici, on dit une excuse. La réalité, la fiancée est peut-être devant son feuilleton et c'est le moment critique, le moment du dénouement. Donc, excuse-moi, mon feuilleton n'est pas fini. Excuse-moi, mais je révise mon interro. C'est extraordinaire l'inspiration qu'il y a chez les étudiants pour réviser, toujours au moment des camps d'église, ils ne bûchent pas de l'année, mais au moment du camp d'église, on va réviser. Au moment du groupe de maison, ah, ce soir, je ne peux pas venir. Mais raconte où tu étais les 3 soirs précédents. Hein? Allez, s'il te plaît. Comment remettrai-je ma tunique? Comment est-ce que je vais salir mes pieds? Non, excuse-moi, j'ai un terreau. Ou alors, je trouve que c'est trop tard. Ou alors, non, là, c'est trop tôt. Je ne suis pas tout à fait prêt. Est-ce que tu veux louer ton Dieu? Non, je ne me sens pas encore prêt. C'est trop tôt. Pour d'autres, non. La réunion, c'est trop tard. Une fois c'est trop tôt, une fois c'est trop tard. Une fois j'ai un terreau, une fois le feuilleton n'est pas fini. Hein? Alors, une fois je suis fatigué. Ça c'est vrai. Une autre fois, c'est... non, pas tout de suite. Alors qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur? Alors je voudrais vous faire écouter quelque chose ici qui raconte un peu ce qui se passe peut-être dans un groupe de jeunes qui vont nous raconter, ou plutôt, oui, on va écouter l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont aller au culte. Et justement, c'est qu'est-ce qui t'empêche de louer le Seigneur.
Allez, man, bouge-toi là, franchement, faut y aller là.
Dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de louer, mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de louer, mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure.
Il est trop tard.
Qu'est-ce qui t'empêche?
De mon feuilleton, y'a la suite.
Qu'est-ce qui t'empêche?
Mes problèmes sont moi ma poursuite.
Qu'est-ce qui t'empêche? Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de louer? Mais dis-moi qu'est-ce qui t'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure.
Y'a rien qui t'empêche, y'a rien qui m'empêche. Y'a rien qui t'empêche, y'a rien qui m'empêche. Y'a rien qui t'empêche, non. Y'a rien qui m'empêche, y'a rien qui t'empêche. Non, 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 non.
Y'a rien qui m'empêche de louer. Non, non, y'a rien qui m'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure.
Même si parfois je suis fatigué, je crois que la puissance de Dieu
on a du mal à s'activer, c'est. On a du mal à avancer, et oui.
Bouge-toi, gars. Je rêve, de liberté que mes
fermer.
Babylone est un peu d'avoir.
Toi-même, tu sais.
Oh mon Dieu, viens vite nous libérer. Aïe.
Jésus nous donne son faillard. Toi-même, tu sais.
Dans la puissance de ta présence, nous serons rassasiés. Hey. Envoie ton esprit. Donne-nous ta vie.
Spirit.
En toi seul, Seigneur. S'être accompli.
Que nos bouches publient tes louanges, à l'unisson avec les anges. Que nos bouches publient tes louanges, à l'unisson avec les anges. Il n'y a rien qui m'empêche de louer, non, non, il n'y a rien qui m'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur.
Mais l'amour du Seigneur Bono est stable. Incroyable, que tu n'es pas une femme. Donc je dois me montrer responsable. Que le désirable, vraiment louable. Que mon cœur et son cœur sont indissociables.
Non, non, y'a rien qui m'empêche de louer. Non, non, y'a rien qui m'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Non, non, y'a rien qui m'empêche de louer. Non, non, y'a rien qui m'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure. Non, non, y'a rien qui m'empêche de louer. Non, non, y'a rien qui m'empêche de crier la joie que Dieu met dans les cœurs, le bonheur que le Seigneur fait à toute heure.
Ah, elle était bien celle-là.
Ah ouais, c'est bon ça. Ça fatigue franchement, mais c'est bon.
Voilà, c'est le groupe Spirit, et peut-être on aura les CD à l'espace média dans quelques temps si ça vous intéresse. C'est un groupe chrétien, ils sont catholiques, vraiment convertis. Un d'entre eux était un leader dans la musique reggae dans la région parisienne, et il s'est converti il y a peu de temps. L'autre chanteur était un SDF qui s'est converti, Dieu l'a changé, ils sont toute une troupe, vraiment super sympa dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, dans leur cœur et tout ça. Et peut-être on les fera venir cette année, on doit parler de ça avec l'équipe pour la fête de l'Évangile, parce qu'ils seraient OK pour ça. En tout cas, on en reparlera, mais si vous voulez les céder, ils seront bientôt à l'espace média. Mais au-delà de ce chant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse nous-mêmes se dire, mais est-ce que parfois je mets des faux prétextes, moi, pour pas élever ma voix, pour pas venir louer le Seigneur, parce qu'il n'y a rien qui m'empêche de louer le Seigneur, quand réellement mon amour pour lui est plus grand que tous les faux semblants. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait ici? Après, il dit... Le texte nous dit, mon bien-aimé, passe la main par l'ouverture, par la fenêtre. Mon bien-aimé, passe la main par l'ouverture. Ça veut dire, il nous fait un signe. Dieu fait un signe. Et bien souvent, quand on est un petit peu, qu'on s'est endormi, on a besoin comme d'un signe de Dieu. Et ici, je vous parlais de Jean-Philippe parce que il me disait, à l'hôpital l'autre jour, il me disait, il y a un peu plus d'un an, après au moment du départ de Béa, il disait, à Béa, mais j'ai vraiment besoin que Dieu fasse quelque chose de très fort, moi, pour me convertir. Parce que, je sais pas, oui, j'aimerais bien, mais voilà, il était endormi. Son cœur veillait, il voulait bien. 3 jours après, Béa est partie. On s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce que sa foi est effondrée? Et c'est là qu'il a rencontré Dieu, mais puissamment. Et là, il m'a dit, oh, je vivais un été dans lequel des petits moments, des petits écarts, des trucs, ma température spirituelle baissait. Ça me tardait le camp de rentrer parce que je voulais retrouver quelque chose de fort, une intimité avec Dieu. Et pam, il a son accident de voiture. Je dis, décidément, toi, tu t'approches de Dieu avec violence. Je sais que c'est les violents qui s'emparent du royaume, mais peut-être il y aurait une autre façon de faire, de garder le feu, tu vois. T'as pas besoin de jeter ta moto pour garder le feu et de trouver. Ah, il était, Il était bouillant à l'hôpital en train de dire, mais nous parler de l'amour qu'il avait pour Jésus, la présence de Jésus avec lui, et les larmes coulent de ses yeux tellement il est béni. Et il dit, mais quel bonheur la présence de Jésus. Et quand il vous parle, son intimité retrouvée avec Jésus, mais je vous assure, vous êtes comblés, remplis. Puis après, il vous parle du cœur qu'il a pour ses amis qui viennent le voir, les amis non-croyants, pour ses parents qui parfois ne comprennent pas son amour pour Jésus. Et les larmes de compassion de Jésus coulent. Et puis quand on prie, c'est tellement beau. Vous savez ce qu'il a dit? Il a eu des visites de plein d'amis, de ses anciens amis, de sa famille, etc. Et quand Rodrigue est venu, après tous ces gens, pourtant il y allait vite, quand Rodrigue est arrivé, il a dit, « Ah, enfin, quelqu'un que je connais !» Vous imaginez? Vous imaginez où son cœur se trouve aujourd'hui? « Enfin, quelqu'un que je connais !» Mais ça, c'est tes amis, c'est ta famille. Oui, mais quelqu'un que je connais dans l'esprit. Quelqu'un que je... Parce qu'aujourd'hui, quand tu es né de nouveau, les choses de l'esprit, les gens qui te permettent de rencontrer Dieu, c'est là ce que tu connais. Et c'est exactement ce signe-là que Jean-Philippe a eu. D'autres ont d'autres signes, mais je peux vous dire, le Seigneur vous aime tellement qu'il ne vous lâchera pas. D'une façon ou d'une autre, il va faire un signe. Alors parfois, on attend que Dieu fasse des signes de guérison, des prières exaucées, les visitations de l'Esprit, les prophéties pour nous, comme quand Hervé Guillois est venu. Il y a toutes sortes de moyens, mais Dieu nous fait signe. Et il le fera parce qu'il veut nous rallumer dans le feu. Mais entretiens ce feu. Dieu allume des étincelles qui doivent devenir des flammes, qui doivent rester en braise. Dieu veut nous voir en feu pour lui. Alors qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, quand le Seigneur fait signe? Il a passé la main par la fenêtre. Il y en a qui ont vu la main de Dieu. Je parlais avec quelques-uns ici qui ont lu un fameux livre sur une dame qui a vu l'enfer. Et boum, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, « Oh là là, j'ai mis ma vie en règle, j'ai vraiment... je voulais être sûr de me convertir. La première fois, c'est pour aller avec Jésus. La deuxième fois, c'est pour ne pas aller en enfer. Hein. » Donc, on se convertit deux fois. Mieux vaut deux fois qu'une, hein, pour être sûr que vraiment, je me suis converti, repenti, etc. Mais ils me disent, 4 jours après, ça y est, c'est reparti. Mais je dis, Dieu te fait un signe. Il a passé la main par la fenêtre, il a touché ton cœur à tel point que tu pleurais, etc. Mais entretiens la braise, entretiens la flamme. Cherche ton Dieu quand il est venu devant toi. Le Seigneur est venu jusqu'à ton cœur te faire un signe, te parler pour toi particulièrement. Tu as eu des prophéties, tu as lu un livre qui a touché ton cœur. Dans un culte, Dieu a touché ton cœur. Il s'est passé des choses où tu as répondu, même dans l'année dernière. Toute cette moquette est témoin de toutes nos promesses à Dieu. Et elle est en même temps témoin de ce que ces promesses, nous les avons oubliées. Si la moquette pouvait parler, elle nous raconterait tout ce que vous lui avez dit quand vous étiez à genoux là-devant. Ou debout dans les moments d'appel. Et tout à l'heure, quand tu vas t'avancer, elle va te reconnaître. Et elle va commencer, les fils vont commencer à sortir et à parler là sous tes pieds. Et dit, oh, toi je t'ai vu 4 fois l'année dernière. Tu as promis des choses à Dieu. Si vous vous taisez, les pierres crieront. Si vous taisez, même la moquette parlera. Dieu est capable de nous parler d'une façon ou d'une autre pour simplement attirer notre attention et produire au-dedans de nous des entrailles touchées. Mon bien-aimé a passé la main par l'ouverture et mes entrailles se sont émues. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. J'aime ce passage. Des entrailles touchées. N'étouffez pas vos émotions quand Dieu vous touche. N'étouffez pas. Parce que le mot émotion, c'est un mot qui a la même racine que bouger. L'émotion, c'est ce qui vous fait bouger. Quand Dieu vous touche, ne murez pas vos émotions. Ayez la simplicité d'un enfant qui fait que Dieu vous touche. Parlez avec votre cœur tout simplement. Seigneur, tu as touché mon cœur et je t'aime. Tu m'as pardonné et je t'aime. Je reviens à toi. Faites pas tous les calculs compliqués. C'est dur les maths au moment où Dieu touche votre cœur. Faites pas de calculs à ce moment-là. C'est le moment de plonger quand Dieu touche ton cœur. Abandonne-toi dans tes bras. Jette-toi dans ses bras comme un enfant. Réponds, mes entrailles ont frémi à cause de lui. Sans émotion, vous n'allez pas bouger. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi David priait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Seigneur, touche mon cœur. Que mon cœur puisse être touché pour répondre à la rencontre de Dieu. Après ce moment de rencontre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève et elle répond. C'est mon deuxième point de message, se lever et répondre. C'est une réponse créative parce que répondre implique toujours de bouger et de s'exprimer. Tu ne réponds pas à Dieu passivement. Ce serait une non-réponse. On répond en bougeant. Cette femme, quand Jésus est entré dans la maison de Simon le pharisien, cette femme n'appartenait pas à une secte dans laquelle on devait casser un vase si on trouvait quelqu'un qui était comme un dieu. Elle n'avait jamais vu des gens casser des vases dans une secte ou dans une religion quelconque pour venir aimer Dieu. Mais elle a donné une réponse créative, la réponse de ce qu'elle avait de plus précieux. Elle est venue avec son vase de parfum, de nard pur. Elle l'a cassé et elle a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus. Elle a pleuré d'amour en le voyant parce qu'elle a dit « Il m'a tant pardonné que je l'aime tant ». Et elle a répondu à l'amour de Dieu. Tu ne peux pas répondre à l'amour de Dieu sans répondre. Tu ne peux pas répondre simplement en disant « Je réponds de façon virtuelle ». Tu ne peux pas. Tu dois répondre et y mettre tout ce que tu es, ton corps, ton âme, ta voix. Tu réponds de façon créative. Jésus dit « À qui comparais-je cette génération ? Elle est comme des enfants passifs assis sur une place publique. On a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamenté. Votre cœur s'est épaissi, disait Jésus aux religieux. Et vraiment, j'ai peur que nos cœurs s'épaississent à force de ne pas répondre à la parole de Dieu. Mieux vaut pour nous ne pas entendre ce que Dieu veut nous dire, plutôt que d'entendre et ne pas répondre, et d'entendre et de pas répondre, et d'entendre et de pas répondre. Quand le Seigneur t'appelle avec autant d'amour, réponds s'il te plaît. Comment répondre ? Merci. Il n'y a pas de réponse stéréotypée, il n'y a pas la seule façon de répondre. Moi, j'aime quand Rodrigue répond qu'il est là à la batterie, puis d'un coup, on le voit se lever. Il arrive comme un chef africain, là. Au moment où il arrive, hein, on sait qu'il a de l'appétit pour Jésus. C'est le moment où il va nous parler, c'est le moment où il y a une onction, une autorité spirituelle, il y a une route qui s'ouvre. Mais quand il fait ça, rentre derrière lui, parce que c'est comme un bulldozer, il ouvre la route et tu rentres derrière parce que tu réponds à la présence de Dieu. Mais c'est sûr que si Eva, dimanche prochain, monte ici sur l'estrade, même si elle s'habille en africaine et qu'elle nous fait comme ça, maintenant, tout le monde va sourire parce que ce n'est pas Eva. Eva répond à sa façon. Il n'y a pas une réponse stéréotypée, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une réponse stéréotypée que tu ne dois pas répondre. Réponds, s'il te plaît, réponds à ta façon, mais réponds. C'est pourquoi on a dans les petites feuilles qu'on donne aux personnes qui nous visitent pour la première fois, on dit « Comment répondre à Dieu ?» Eh bien, pourquoi pas lever les mains. Que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Psaume 141, 2. Si vous prenez les feuilles d'accueil, vous qui êtes à l'accueil ici, vous allez voir, c'est toutes ces références que nous donnons. Pourquoi lever les mains? Que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Avant, il y avait des offrandes d'animaux, de nourriture, etc. Mais Dieu considère, quand tu lèves tes mains, c'est comme une offrande du soir. Et je voulais te dire, si tu n'as jamais encore levé tes mains quand on adore Dieu, pourquoi pas dire, il y a une chose que je vais faire dans ces deux mois. Au moment où on adore, je vais lever mes mains vers Dieu. Et pas juste, tu sais, à la Gaston Lagaffe, les mauvais jours. Pas juste une main, puis comme ça, tu vois. Pas comme ça. Mais réellement, lever mes mains. Déployer mon corps pour dire, Seigneur, tu es le Très-Haut. Mes mains s'agitent comme des palmes devant toi, comme des branches de palmier, pour te dire, tu es grand, tu es bon. Hosanna, au fils de David, je sais que mon Dieu est dans le ciel. Que l'élévation de mes mains soit comme l'offrande du soir. Pourquoi frapper des mains ou pousser des cris de joie? La Bible nous dit, psaume 47, 2, « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Est-ce que vous savez pousser un cri de joie à clé? Oui, c'est vrai, on va faire ça à trois. Je voudrais vous entendre pousser un cri de joie, ça va en même temps réveiller ceux qui sont endormis, mais dont le cœur veille, hein, déjà. Un, deux, trois. Alléluia. Ce qu'on vient de faire, c'est mettre la Bible en pratique. Parce que la Bible nous dit « Poussez vers Dieu des cris de joie ». Ce qu'il y a, vous avez poussé vers moi un cri de joie. Est-ce que maintenant on pourrait pousser vers Dieu, lui, en train de lui dire « C'est pour toi, c'est à cause de ton triomphe ». Un, deux, trois. Alléluia. Mais c'est beau de voir Sébastien, vous savez, les mains levées en train de crier comme un supporter allemand. C'est magnifique, Sébastien, de te voir comme ça. C'est superbe. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous, que nous répondions à la présence de Dieu. Pourquoi danser et sauter? La Bible nous dit, psaume 149, 3, qu'il loue son nom avec des danses. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Vous avez vu comment Amélie danse de toute sa force devant Dieu? Toute sa force, elle y met, vraiment. Hein? Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai fini le camp d'église cuit physiquement. Parce qu'il y a eu le canoë, mais ça, c'était le moins grave, physiquement. Mais les réunions de louanges, dimanche matin et même dimanche soir, le concert, je sentais que je sautais. Et mes 45 ans me rappelaient, il n'y a rien qui m'empêche, il n'y a rien, 45 ans, non, il n'y a rien qui m'empêche de louer le Seigneur. Hein? Mais je vous assure, le lendemain, j'étais comme si j'avais fait un marathon presque. Je suis allé à Agen, j'ai amené mes membres avec moi, mes jambes ont dû suivre, parce qu'elles n'avaient pas envie de suivre. Je dis, on y va, tout le monde, allez, on suit. Et puis, J'ai amené tout, hein. Parce que des moments, quand tu sautes, tu danses, mais c'est biblique et c'est agréé par le Seigneur de le faire. Chantez à haute voix. Chantez. Psaume 47, verset 6. Chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Béni soit Dieu. Certains me disent, mais ça c'est les psaumes, mais dans le Nouveau Testament. Matthieu 26, 30. Jésus, avec ses disciples vers le mont des Oliviers. Jésus chantait. Et à mon avis, quand il chantait à son Père, il mettait toutes ses entrailles, tout son amour. La Bible nous dit qu'on peut utiliser toutes sortes d'instruments pour le louer. C'est ce que nous essayons de faire ici. Que nous pouvons prier ou chanter dans une langue inconnue et même apporter des offrandes. Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Je viens d'entendre qu'il se passe des choses étonnantes en ce moment dans certaines églises au Canada. Les gens, au milieu de la louange, personne ne vient présenter les dîmes et les offrandes. Des gens sont saisis en foule. Personne ne leur a dit, ils commencent à remplir des chèques et courir sur l'estrade et poser les chèques pour les donner à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ce n'est pas dans l'ordre du culte. Ils répondent d'une façon créative à l'amour de Dieu pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux te donner pour toi? Et certains n'ont rien trouvé de mieux que donner qu'un chèque. Et je trouve que c'est extraordinaire, apporter au Seigneur même ses offrandes, de répondre d'une façon créative. En tout cas, quelle que soit la réponse que vous avez donnée, faites-le avec tout votre cœur, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Pas simplement pour imiter d'autres, tu entres dedans, mais fais-le avec ton esprit. Quelle réponse allez-vous donner au Seigneur dans ces deux mois? Alors, il est dit la myrrhe, ensuite, parce que cette fiancée est revêtue de myrrhe. La myrrhe, c'était quelque chose qu'on offrait au roi, mais c'était aussi quelque chose que les fiancées portaient sur elles pour le jour des noces. Donc, elles arrivaient, elles étaient toutes huileuses. Tout rempli de myrrhe ici. Enfin, c'est un parfum, mais mélangé avec de l'huile d'onction. C'était l'huile d'onction ici. Et quand elle arrive, elle nous parle de la myrrhe qui se répand sur elle, qui coule d'elle. Et c'est vrai que dans la présence de Dieu, dans la louange de Dieu, l'onction arrive. Certains disent, mais comment vous faites pour être rempli de l'esprit? La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des louanges, des cantiques spirituels. Quand vous le faites de cette façon, vous êtes en train de vous remplir de l'esprit. La louange génère l'onction. La louange du Seigneur, ce n'est pas juste chanter au culte, c'est chaque fois que tu dis des bonnes paroles à Dieu, tu es en train de tourner le robinet de l'onction. L'onction est dans un tonneau et quand tu dis « Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es bon, Seigneur, je sais que tu es fidèle, je suis relié à toi par le fil de ma foi, tu es relié à moi par le fil de ton amour, la bannière que tu mets sur moi, c'est ton amour, rien ne pourra nous séparer jamais, on est les meilleurs amis, c'est jusqu'à la fin, Seigneur. » Hop, tu as le robinet d'onction qui commence à s'ouvrir, tu as le tonneau qui coule et tu commences à sentir l'huile d'onction qui découle sur toi. C'est une excellente façon, c'est la façon biblique de recevoir l'onction. C'est si délicieux cette onction. C'est une force surnaturelle. Dit autrement, c'est la potion magique d'Astérix, si vous voulez comprendre ce que ça fait. Et les effets que ça a sur nous, c'est extraordinaire. Quand on prend de cette onction, elle élargit ton cœur pour aimer. Elle te donne des nouvelles forces. Elle renouvelle ton courage. Elle ranime ta joie. Elle te redonne le goût de vivre. C'est pourquoi on veut développer une église qui vit dans l'onction. Et ce n'est pas une onction mystique, ce n'est pas une onction dans laquelle on dit « Attention, désormais, que personne ne bouge, Dieu est là. » Et vous savez, un truc qui fait que on dit, ça devient mystérieux ou solennel d'une mauvaise façon. La solennité, oui, mais remplie de la gloire de Dieu, remplie de la soif de Dieu, de le goûter, lui. Et cette onction-là, nous la voulons ici. Mais parfois, quand tu reçois cette onction, il se passe exactement ce qui se passe avec cette femme ici. L'onction coule jusqu'au verrou. L'onction s'est arrêtée sur la poignée du verrou, nous dit le texte ici. Et ce verrou, c'est le moment où tu es dans l'adoration, dans la louange, en train de dire comme Ésaïe, « Oh, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière est remplie de sa gloire. » Et là, Ésaïe prend conscience d'un verrou sur ses lèvres. « Mes lèvres sont impures !» Alors il rend au Seigneur le culte spirituel qui lui est agréable, l'obéissance dont nous parlait tout à l'heure Éric. Dieu, Seigneur, il demande pardon à Dieu et Dieu vient le purifier. Au moment où tu adores, où tu t'ouvres, parfois ton onction va aller jusqu'à la mesure, jusqu'à la hauteur de ton verrou. Le verrou, c'est quelque chose qui ferme à clé. Et il y a des dimensions dans nos vies, il y a des choses qui sont encore fermées à la gloire de Dieu. L'onction vient et l'onction va nous conduire jusqu'au verrou de nos vies, dans nos personnalités, des choses qui bloquent. Ça peut être un verrou de timidité. Le moment où tu bouds d'envie de pousser un cri de joie vers ton Dieu, mais L'onction va jusqu'au verrou. Ça peut être une réconciliation. Le Seigneur dit, si donc tu apportes à Dieu ta louange et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, tu es au verrou. Va d'abord te réconcilier et le verrou va sauter. Il y a toutes sortes de verrous. L'endurcissement, la culpabilité, ce verrou de culpabilité horrible. L'onction est là et puis tu es rempli, puis d'un coup le diable vient et te dit, mais toi tu ne peux pas parce que regarde ce que tu as fait, regarde dans quel état tu es. Puis d'abord tu n'es même pas un des équipiers, puis donc pour qui tu te prends si tu élèves ta voix, puis si tu écoutes la voix du diable, mais tu es cuit ou tu es cuite. Il faut réellement le faire taire et aller au-delà par l'onction. L'onction qui fait éclater tous les jougs et tous les verrous. C'est l'onction qui va le faire, mais cette onction en même temps nous révèle et les mensonges, et les jalousies, et les pensées impures, les fantasmes sexuels qui arrivent et qui sont entretenus, parce que ça arrive souvent. Tu es là en train de louer et d'adorer, puis tu as une image agressive, le diable essaye de dire, oh là là, je vais essayer de mettre des parasites. Tu dis, reprends tes images, je ne regarde pas cette chaîne-là. Reprends ces images, je regarde pas ça. Au nom de Jésus, je suis là pour bénir mon Dieu arrière de moi, Satan. Mon Dieu est saint et je l'adore, lui. Mais si tu l'entretiens, alors c'est un verrou. C'est un verrou. Et Dieu vient avec son onction juste pour que nous soyons libérés de ces verrous. Il y a une libération qui vient dans la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Dans la louange, il y a une délivrance qui vient. C'est délivrant des verrous de cœur fermé, d'entrailles cruelles, etc. C'est ce moment du changement, le moment où tu acceptes de voir ce verrou touché en toi et tu dis, d'accord Seigneur. 2 Corinthiens 5:11, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous sommes en pleine lumière devant Dieu. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous sommes en pleine lumière devant Dieu. Nous n'aurons jamais une adoration satisfaisante si nous n'acceptons pas que notre Dieu est saint et glorieux et que nous devons connaître la crainte du Seigneur. Je voudrais simplement vous dire encore que toute la vision de clé découle de là, découle de la rencontre de Dieu. Toute notre vision, toute notre vie, le cœur de clé, tout ce que nous sommes dépend de la qualité de notre rencontre personnelle et communautaire avec Dieu lui-même. C'est pourquoi nous plaçons souvent l'adoration comme les deux premiers mois de l'année d'église, parce que nous considérons que c'est la priorité des priorités. Le cœur est là. Si nos cœurs sont touchés par Dieu, si nos cœurs ont appris à s'attacher à lui, à développer un amour pour lui, à répondre de nouvelles façons à sa présence, tout le reste va arriver. C'est parce que nous avons un amour passionné pour lui qu'ensuite nous nous laissons transformer. Donc la transformation, la formation vient de là. C'est parce que nous l'aimons que nous sommes en communion les uns avec les autres, comme 1 Jean 1:3 nous le dit. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion, nous sommes en communion quand les amoureux du Seigneur se retrouvent. Alors, plus on se rapproche de lui, plus nous sommes proches les uns des autres, comme dans une roue. Plus vous allez vers le centre, plus les rayons se rapprochent. Eh bien, plus nous allons ensemble dans la présence de Dieu, plus notre unité est un fruit normal du fait que nous nous approchons de Dieu sans tricher, en l'aimant de tout cœur et en acceptant quand il nous montre des verrous, de nous laisser purifier, transformer dans sa présence. Et l'unité grandit ici. Il n'y a pas d'unité plus puissante que l'unité qui est issue de la présence et de la gloire de Dieu. Et ça, c'est réellement ce que Dieu veut nous faire goûter dans ces temps. La gloire nous unit. Dans les temps de jeûne et prière, quand nous sommes ensemble les 3 jours, la gloire de Dieu nous unit. Même quand nous sommes à genoux, comme plusieurs fois nous l'avons été, prosternés devant Dieu, nous humiliant pour tous les vœux non accomplis, pour toutes les paroles infidèles, pour toutes ces choses qui ont pu le chagriner. Mais là, quand nous sommes en train de pleurer ensemble et de nous réjouir ensemble et de combattre ensemble, plus nous sommes ensemble dans la présence de Dieu, plus l'unité véritable est formée en nous. Et c'est cette unité-là que nous voulons. Tout le cœur de clé dépend de notre rencontre de Dieu. Tout le cœur de notre vision dépend de cela. De là vient aussi l'évangélisation. Quand Ésaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé, j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que Dieu lui a montré son verrou, mais Dieu lui a montré son cœur. Et il lui a dit, Ésaïe, est-ce que tu veux bien regarder là où je regarde? Et Ésaïe a regardé. Et Dieu lui a dit, mais qui enverrai-je vers eux? Qui pourra aller leur parler à ceux pour qui mon cœur saigne? Dieu cherche. Quand nous sommes en train de l'adorer, il cherche des cœurs qui sont prêts à recevoir un peu de ses préoccupations. L'amitié de Dieu, les secrets de Dieu sont pour ceux qui s'approchent de lui. Et peu à peu, vous savez, le cœur d'évangéliste, vous ne l'avez pas comme vous avez des cheveux roux. Ça ne vient pas comme ça, ah, ben, tu as des cheveux roux ou tu n'en as pas. Non, ça vient dans la présence de Dieu. C'est là que la teinture rousse arrive. Oui, elle est là. C'est là que la teinture arrive. Dans la présence de Dieu, c'est là que tu déteins. Ton cœur déteint à l'image du cœur de Dieu. Dieu pleure quand il voit Montpellier, les environs, avec des foules loin de lui. Pourquoi est-ce que nous avons l'évangélisation comme une des priorités? C'est le cœur de Dieu. Et dans l'adoration, nous recevons le cœur de Dieu. Nous recevons le cœur de Dieu aussi pour les incroyants. Béni soit Dieu. C'est de là que vient le service pour les autres. Quand Pierre a été appelé à servir Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Pierre, m'aimes-tu? M'adores-tu? M'aimes-tu? Oui, Seigneur. Alors, sers mes brebis, paie mes agneaux. Le service vient de l'amour pour Dieu. Toute notre vision d'adoration, de relation, de formation, d'évangélisation, de service, tout naît de la rencontre de Dieu. La vision de clé repose dans la rencontre de Dieu. La qualité de notre vie, d'église, notre vie personnelle, dépend de la rencontre de Dieu. Ce que tu es appelé à faire dans ton métier, la qualité avec laquelle tu vas le faire, ça dépend de ta rencontre de Dieu. La marque du Seigneur sur toi, au moment où tu fais ton métier, c'est passionnant. Et j'arrive à mon dernier point, parce que le Seigneur m'a parlé pour notre église et il m'a dit que dans cette année, il veut faire de ses serviteurs dans cette église des flammes de feu. C'est le verset que j'ai reçu pendant mon été, pendant l'été, pour cette église. Je veux faire de vous des flammes de feu. Je veux remettre un feu au milieu de vous. Et je vous avais dit, j'allais lire un verset du Cantique des Cantiques, même deux ou trois, deux versets. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme une flamme du Seigneur. Cantique 8, 6. Car l'amour est fort comme une flamme du Seigneur. Quand nous venons devant Dieu, nous allons devenir des flammes de feu. Nous allons être embrasés. Ça a bien commencé dans cette année 2004, mais il y a encore plus. Dieu veut faire de ses serviteurs des flammes de feu. Il veut nous donner cette victoire, cette culture de victoire, cette culture de la gagne réellement. Clé est appelée à être une église qui va bousculer les verrous et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Clé est appelée à avoir des hommes et des femmes qui sont saisis par le feu ardent du Seigneur, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il a dit qu'il ne laisserait pas les captifs dans les cachots. Il ne va pas laisser les gens en enfer. Il veut les sortir et il veut nous utiliser pour cela. Il va faire de nous des flammes de feu. Et c'est par le feu que les flammes de l'enfer seront détruites. C'est un combat de feu qui est devant nous. Le feu dont il va nous allumer va embraser le feu de l'enfer qui brûle le cœur des gens, qui brûle de douleur le cœur des dépressifs, le cœur des captifs, le cœur des malades. Et les flammes de Dieu vont nous saisir, vont vous saisir dans sa présence. Non pas simplement avoir une belle église. Je ne me contente pas qu'on dise « Nos cultes à clé sont pas si mal ». Dieu veut plus que cela. Dieu veut nous voir comme une église qui gagne, une église remplie de l'esprit de victoire. Car Paul disait « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et que je gagne des âmes. » Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Des vents, il fait des messagers, mais de ses serviteurs, il fait des flammes de feu. Nous voulons continuer dans cet amour passionné, ce que nous sommes à clé, ce que nous sommes dans l'équipe clé. Je voudrais vous dire ce que nous sommes dans nos valeurs. Ce que nos valeurs, ça signifie ce que nous sommes. Nous avons dit, voilà ce que nous sommes, voilà l'état d'esprit que nous voulons développer. Un amour passionné pour Jésus. Vous devriez nous voir le matin à 7h30 quand on prie, en tant qu'équipe de ministère. Je peux vous dire, on ne vient pas pour dire, bon allez, on va bosser, ouvrons nos agendas. On vient pour dire, oh Dieu, nos espoirs sont sur toi, nous t'adorons, tu es le Dieu rédempteur, tu es le Seigneur de gloire, nos cœurs veulent brûler pour lui et nous nous entretenons dans la passion pour notre Dieu. Nous voulons développer l'esprit de la foi, de l'amour, de la sagesse, parce que c'est la foi, l'amour qui va nous remplir pleinement de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Nous voulons développer au-dedans de nous la foi, l'amour, l'espérance et toujours parler un langage d'espérance. Nous nous sommes dit les uns aux autres, nous n'allons plus accepter que l'un parmi nous parle un langage de défaite et de plainte et de murmure. Parce que si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, aucune situation n'est suffisamment désespérante pour que Dieu n'intervienne pas. Donc rien ne pourra nous séparer de cela. Dieu va nous relever, Dieu va nous élever, Dieu va nous apprendre à l'aimer, à le rencontrer, à l'adorer. Quelque chose est en train de s'embraser parce que Dieu veut faire de cette église une église qui gagne. Qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui gagne, qui gagne. Nous tous donc, environnés d'une telle nuée de témoins, tous ceux qui ont couru la course, qui ont achevé la course, ils nous regardent, entourés d'une telle nuée de témoins. Nous allons maintenant entrer dans la course, les yeux fixés sur Jésus, lui qui en échange de la joie qui lui était réservée. Il voyait la multitude sauvée. Il a regardé la croix comme peu de choses et il a continué à courir et il a vaincu. Il est le plus que vainqueur. Et la Bible nous dit, si donc vous avez les regards sur lui, si donc vous avez les regards sur lui, ne vous laissez pas abattre par l'esprit de découragement. Ne vous laissez pas l'âme découragée. Ne laissez pas le découragement devenir plus grand que l'amour de votre Dieu. Si nous entrons dans cette phase de combat, l'ennemi va venir t'impressionner. Il va passer près de toi, il va te faire wow! Et puis voilà, après, c'est... mais c'est rien, c'est juste un cri. C'est juste un cri. Seulement, ça surprend un peu. Ça surprend d'avoir un camion qui disparaît. Mais c'est juste un cri. Il a compris que Rodrigue va nous conduire dans la victoire dans ces deux mois. Alors il essaye d'intimider. Il a compris, nous sommes dans la louange et l'adoration. Alors notre bien-aimé Jean-Phi, ben lui, il a sauté de la moto. Mais c'est un petit saut. Ça aurait pu être bien grave, mais la main de Dieu est intervenue. Et aujourd'hui, il est en train d'aimer Jésus plus qu'il y a 15 jours, plus qu'il y a 10 jours. Son amour pour Jésus grandit. Chaque fois que le diable fait une manœuvre, il y a un retour de manivelle contre lui qui lui fait mal. Et ce qui est vraiment étonnant, mais enfin, je vais pas lui donner des conseils, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a toujours pas compris. Il n'a toujours pas compris et il continue à nous refaire des coups. Et les coups se retournent contre lui, parce que celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu veut faire de nous des êtres déterminés, une louange de victoire, une louange de fête. Alors je voudrais simplement, est-ce que tu peux montrer le transparent et on termine avec ça? Je voudrais simplement vous rappeler, si on arrive à le voir, et peut-être on parlera de ça et demain soir avec les chantres aussi, un peu plus, ce que nous croyons être une louange qui va gagner, si on atteint réellement nos objectifs, ce que nous attendons de vous, de chacun dans la louange. Premièrement, un esprit livré à Dieu d'une façon concentrée. Rodrigue appelle ça être dedans. Ça veut dire le moment où nous sommes en train de louer Dieu ici. On peut voir certains qui sont endormis, mais le cœur veille. Non, ce que nous voulons, c'est que tu y aies tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et le plus souvent possible dans le culte, de temps en temps, tu as des pauses pub, je sais, moi aussi. Mais que tu y reviennes, ton esprit est dedans. Tu ne viens pas avec un cœur détaché. Première chose, et ça, nous l'attendons, car celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. La deuxième chose, que la pratique régulière de l'adoration remplissent la vie courante. Ce n'est pas juste au Dieu, au culte que tu vas louer ton Dieu, mais c'est en tout temps. Psaume 34, 2 dit, « En tout temps, ma louange sera dans ma bouche pour toi. En tout temps, je louerai mon Dieu. En tout temps, au travail, à la maison, en voiture, à chaque moment, donne des paroles de louange, d'amour à ton Dieu. » Troisième chose qui va nous aider pour voir si réellement nous sommes en train de réussir notre adoration. Si nous chantons seulement, on ne réussit pas. Mais si l'adoration produit une transformation de notre état d'esprit, alors c'est que nous sommes en train de réussir. Une transformation de notre état d'esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire. Quatrième, une obéissance et l'abandon de soi à la volonté de Dieu. Romains 12 nous dit que le culte qui est raisonnable, le culte spirituel que Dieu agrée, c'est quand nous nous soumettons à sa volonté. Le moment où tu obéis, le moment où tu cesses de résister à quelque chose de Dieu, dans ces cultes de ces deux mois, s'il y a des moments où tu donnes des choses à Dieu, sache que c'est un culte qui lui est agréable. Cinquième, la créativité, des chants nouveaux, des expressions nouvelles de louanges, les bannières, les danses, la peinture, du théâtre, des multimédias. La Bible nous dit ceci, psaume 33, 3. Chantez-lui un cantique nouveau de tout votre art, accompagnez l'acclamation. Il y a tout un tas de produits artistiques, de suggestions artistiques qui pourraient grandir parmi nous. J'aime les petits dessins d'Hervé, mais il y a tellement de choses à faire dans les petites pièces de théâtre, dans toutes sortes de choses qui pourraient venir comme une expression de la rencontre du Dieu qui est si créatif, si artiste au milieu de nous. Ensuite, des manifestations de la présence de Dieu. Le soleil de justice se lève et dans ses rayons se trouve la guérison. Et enfin, une offrande extravagante. Comme cette femme qui est venue répandre tout le parfum qui coûtait tellement cher, à tel point que les disciples ont dit, « Oh là là, mais ça c'est trop pour Jésus !» Jésus a dit, « Mais il n'y a jamais rien de trop pour moi, tout dépend comment tu m'aimes !» Une offrande extravagante, au-delà du petit raisonnable, une offrande qui fait que ton cœur est tellement touché, que ça c'est un signe d'un cœur touché. Je vous assure, quand ces Canadiens courent à l'estrade avec des chèques garnis, eh bien, je peux vous dire, c'est qu'il faut un cœur touché parce qu'un Canadien, c'est un Français cousin. Hein? C'est quelqu'un qui aussi avait le porte-monnaie serré autour du cœur. Et je dis, ça, c'est vraiment une preuve. Et enfin, la lisibilité pour les non-initiés, comme nous le dit ce texte de, comme nous le dit ce texte d'Actes 2, 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? D'apprendre dans nos cultes café croissant, nos cultes apéro, à avoir une louange qui s'adapte aussi aux non-croyants. C'est tout, sur tout cela que nous allons mesurer notre état et nos progrès. Dans les équipiers, chacun a fait état de là où il en est. Au chantre, on le fera demain soir. Peut-être que ce sera fait dans certains groupes de maison, si vous désirez, mais qu'on puisse évaluer où est-ce que j'en suis, moi, dans ma qualité de louange et comment je peux progresser. Parce que là se trouve le cœur de clé. Béni soit Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter à la prière pour terminer. Merci, Jésus. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci de nous aimer tant, Seigneur, au point de désirer notre amitié. Et ce matin, juste avant qu'on mette la musique, je veux inviter tous ceux qui ont pris conscience, le Seigneur t'aime au point de désirer ton amitié, être ton ami. Il chérit la parole qui sort de ton cœur et de ta bouche pour l'aimer. C'est lui qui vient frapper à la porte. Il a choisi d'avoir besoin de ta louange pour sourire. Ta louange peut tellement plaire à ton Dieu. Et simplement, si tu prends conscience de ça ce matin et que tu veux remercier ton Dieu, de dire, Seigneur, merci de m'aimer au point de désirer mon amitié. Et je vais répondre à ton amour, à ton appel. Quand tu dis, ouvre-moi, je vais t'ouvrir. Je vais répondre d'une façon créative, mais en tout cas, je vais répondre. Merci pour cette amitié. Je vais y répondre. Je veux simplement vous inviter juste à vous lever, très simplement, à votre place. Tous ceux et celles qui peuvent dire, Seigneur, merci de vouloir à ce point mon amitié. Et je veux y répondre. Merci de vouloir mon amitié. Si on peut attendre juste quelques secondes, Nat, merci. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont là devant toi. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que tu viennes les toucher. Seigneur, au-delà de ma parole, je te demande de passer ta main par l'ouverture de leur cœur au nom de Jésus. Et je te prie, Seigneur, que tu nous rendes conscients à quel point tu nous aimes. Tu nous rendes conscients à quel point tu nous aimes, au point de chérir la parole qui sort de notre bouche, le geste d'amour pour toi. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs ici et je te demande juste, visite-les, remplis-les, Seigneur. Ouvre les cœurs maintenant. Ouvre les cœurs par ce grand amour qui vient de toi. Saint-Esprit, que la myrrhe coule, que l'onction d'amour pour toi coule, que l'onction coule. Fais de cette église une église d'amour pour toi, une église passionnée, une église de la rencontre de Dieu. Seigneur, trouve des réponses. Trouve des réponses. Que chacun dise simplement, Seigneur, je vais te répondre. Avec ma façon, mais je vais te répondre, Seigneur. Je réponds à ton amour, Seigneur. Merci. Moi, vraiment, en tant que pasteur, je veux dire merci de faire plaisir à mon Seigneur, à mon Dieu. Je l'aime tant que chaque fois que quelqu'un lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous aimiez Dieu. Je vais vous le dire simplement. Ça me fait plaisir que vous soyez debout pour dire, Seigneur, ton amitié me touche et je vais y répondre. Oh, béni soit Dieu, béni soit Dieu. Tu bénis, tu touches, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, mon appel est simplement, et c'est mon dernier appel, tous ceux et celles qui veulent dire, Seigneur, attention, ce n'est pas un appel juste simple, comme ça, juste parce que la moquette va entendre, et l'estrade aussi, et le Seigneur aussi, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Là où j'en suis, en toute humilité, je m'approche de toi. Même si j'étais tombé quelque part, là même où je suis tombé, tu viens me chercher, tu me relèves. Mais ce que je veux, c'est entrer dans le plan que tu as pour moi. Je veux vivre pour toi. Je veux devenir une flamme de feu. Il va y avoir des flammes de feu ici dans cette église. Nous allons commencer même des groupes de prière que nous appellerons des flammes de feu parce que je sais que le Seigneur veut susciter des flammes de feu dans cette église. Si vous avez la conviction dans votre cœur que vous êtes appelé à être une flamme de feu, vous avez le désir que Dieu vous embrase à nouveau, s'il vous plaît, même si Dieu vous a embrasé il y a longtemps, mais vous avez le désir de revenir et vous voulez dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Vous allez sortir des rangs, vous allez courir ici devant et nous allons ensemble chanter au Seigneur. Je veux vivre pour toi. Nathanaël, on y va. Merci. Si tu peux mettre un peu plus fort encore. Merci. Alléluia. Des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, Seigneur. Oh, des flammes de feu, Seigneur. Fais de tes serviteurs, tes servants, des flammes de feu. Seigneur, qu'il n'y ait plus de réserve, qu'il n'y ait plus de réserve. Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je vais demander Bernadette, si tu es là, et un homme aussi, si un homme peut venir, simplement, au nom de Jésus. Je commence par l'équipe ministère, parce qu'ils vont prier comme moi après, au nom de Jésus. Des flammes de feu, des flammes de feu, Seigneur, fais d'Isabelle une flamme de feu pour toi, Jésus. Qu'elle vive pour toi, Jésus, davantage pour toi. Tout le centre de sa vie pour toi, Jésus, pour toi. Je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi. Saint-Esprit, remplis, qu'il vibre, qu'il vibre, qu'il vibre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi au nom de Jésus. Je veux vivre pour toi au nom de Jésus. Que le feu descende. Remplis-le, renouvelle-le, ranime la flamme, Seigneur. Ranime la flamme, Olivier, au nom de toi. Laisse-toi embraser, tu sais pourquoi tu es fait. Ne te trompe pas de route. Que la flamme soit rallumée au nom de Jésus. Alléluia. Je veux vivre pour toi.
Jesus.